C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur William Shakespeare, dramaturge, poète. 1564-1616, Angleterre. Bisexuel, politique, on ne sait pas. S'occupant de mythes, Shakespeare semble n'avoir aucune opinion politique. Œuvre, beaucoup de bruit pour rien. En anglais, Much Ado About Nothing, 1600. Personnage, Béatrice et Bénédicte. Adaptation au cinéma, plusieurs films, le plus récent est chilien, Aquí no ha pasado nada, par Alejandro Fernández Almendras en 2016, le plus ancien, un muet de 1913, dirigé aux États-Unis par Phillips Smalley. Une comédie musicale, The Boys Are Coming Home, par Bernie Stapleton et Leslie Arden en 2006. À l'opéra, Béatrice et Bénédicte par Hector Berlioz en 1862 et Beaucoup de bruit pour rien par Charles Stanford en 1901. Shakespeare raffole des disputes, c'est bien un auteur de théâtre. Les personnages de théâtre se disputent beaucoup plus que les personnages de roman et d'ailleurs que les personnes de la vie matérielle. Cela date de toujours. La tragédie grecque est une suite de disputes avec les dieux ou entre héros. Et, dans le théâtre de marionnettes, l'idéal de Guignol, créé par Laurent Mourguet en 1808, est de donner des coups de bâton. Une quintessence de disputes se trouve dans la pièce d'Edward Albee, qui a peur de Virginia Woolf, une pièce que, soit dit en passant, Philippe Roth, qui n'est libéral et compréhensif qu'à envers certains goûts les siens, a démoli pour une raison qu'il a osé nommer et que je ne répéterai pas. On pourrait imaginer une pièce de théâtre où un auteur et son critique se feraient une scène. Thomas Bernhard, qui n'était que colère, l'a exprimé avec un génie comique dans ses romans et de manière amère dans ses pièces qui ont parfois l'air de règlements de compte. Ainsi, celle de Tennessee Williams où les fils font des reproches aux mères, les belles filles aux belles-mères, et où à la fin, tout le monde se dispute dans un psychodrame depuis très imité par les émissions de télévision. Ah voilà, l'autre endroit des disputes, c'est la télévision. Les grincheux de 1900 qui prédisaient que le cinéma tuerait le théâtre ont eu tort comme toujours, et il est vrai qu'ils ne pouvaient pas savoir que ce nouveau médium apparaîtrait, qui serait le vrai frère du théâtre. La radio, elle, ne convient pas aux disputes, car les paroles qui s'interrompent et se bousculent s'anéantissent, sans parler des cris qui y deviennent insupportables. Et tout cela, je crois, parce qu'il n'y a pas les corps. Je crois qu'on ne supporte les colères que vues. C'est en voyant les yeux hors de la tête, les lèvres pincées, les regards glaciaux, que nous voyons autre chose que la haine dite, la souffrance, l'exagération, je ne sais quoi d'autre qu'à deviner l'auteur. Dans Shakespeare, les rois se disputent avec les usurpateurs, les assassins avec les fantômes de leurs remords, les amoureux avec l'amour. C'est l'objet de Beaucoup de bruit pour rien, où Béatrice et Bénédicte, pareilles à deux figures de cartes à jouer tête bêche, sont séparées par un trait oblique, pareil à une flèche, les railleries qu'ils s'envoient. Pour parler de Béatrice et Bénédicte, je reçois Michael Edwards de l'Académie française, professeur au Collège de France et auteur de 4 ouvrages sur Shakespeare, le plus récent étant Shakespeare, le poète au théâtre, chez Fayard. Michael Edwards, qui sont Béatrice et Bénédicte ?
Qui sont ? Ils sont d'abord leur nom, me semble-t-il, Béatrice qui bénit et Bénédicte qui est bénie. Et c'est en quelque sorte la quintessence des rapports entre hommes et femmes dans Shakespeare, où très souvent c'est la femme qui domine par l'élégance ou la profondeur de son être par rapport à l'homme. Et dès leur nom, nous comprenons que malgré le fait que, comme vous dites, au théâtre, il y a toujours des disputes, parce que il faut du conflit au théâtre, sinon il n'y a pas de théâtre, en quelque sorte. Malgré leurs disputes, on sent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, Béatrice et Bénédicte. En anglais, maintenant, on a un peu perdu cette homonymie presque entre les deux noms, parce que nous disons Beatrice et Bénédicte, mais à l'époque de Shakespeare, on disait Béatrice et Bénédicte.
Qu'est-ce qui leur arrive dans la pièce? Il faut raconter ça d'abord.
Oui, ce qui leur arrive, c'est d'abord un certain mystère, et c'est une des choses que j'ai apprises chez Shakespeare. Nous savons dans la pièce qu'ils commencent par se moquer l'un de l'autre, railler de façon quelquefois assez amère, le partenaire en face. Mais nous savons aussi par quelques petites allusions que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, ça, c'est évident. Mais aussi que dans le passé, ils ont eu une affaire ou une relation amoureuse où on n'est pas très sûr de quoi il s'agit. Béatrice disant de Bénédicte qu'elle avait reçu son cœur et qu'elle lui avait donné le sien, mais que le vaurien l'avait renvoyé, etc. Mais cette vision de le rapport d'avant la pièce n'est pas corroborée par Bénédicte, et il me semble très important qu'il y ait une sorte de mystère à l'origine de leur rapport, qui n'est pas dans la pièce et que nous ne pouvons pas explorer.
Il faut dire que ça n'est pas à l'origine, peut-être, les héros principaux de la pièce. Il y a deux couples, n'est-ce pas ?
C'est très curieux. Shakespeare a pris deux sources, en quelque sorte, de la comédie de l'époque. Le mépriseur de l'amour, qui est Bénédicte, et en partie aussi Béatrice, qui ne voudrait pas se marier, d'après ce qu'il dit à un moment. Elle dit autre chose à d'autres moments, parce que nous sommes dans le monde de Shakespeare, c'est-à-dire un monde extrêmement complexe. Et de l'autre côté, l'histoire d'Héro et Claudio, c'est-à-dire l'autre couple d'amoureux, qui touche au tragique. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a ce couple, Béatrice et Bénédicte, dont tout le monde se souvient.
Oui, c'est ça.
Et les deux héros principaux présumés de la pièce, dont on se souvient bien moins, surtout que c'est la femme qui s'appelle Héro, et non pas héroïne.
Je crois que ça a été assez immédiat. Je crois qu'il existe un exemplaire du roi Charles Ier qui porte une mention où il souligne les noms des personnages de Bénédicte et Béatrice, et non pas Héro et Claudio. Donc ça veut dire que tout de suite, ils ont accroché le public.
Le public a compris que toute l'inventivité de Shakespeare passait par Béatrice et Bénédicte, mais que la présence de Héro et de Claudio avait une immense importance pour l'effet de cette gaieté intrinsèque de Béatrice et Bénédicte, de cette conversation, ces disputes qui sortent de la des nouvelles de la Renaissance, de toute cette magie que l'on découvre dans les langues vernaculaires à l'époque, en France comme en Angleterre, en Italie. Et pour moi, il est très important que la gaieté qui est au fond de la pièce prend une autre couleur par le fait qu'elle est juxtaposée à cette d'abord à la méchanceté absolue de Don Juan, Don John, qui accuse Héro d'infidélité par pure méchanceté, simplement pour se venger et parce qu'il aime faire le mal. Et aussi par le fait que Héro et Claudio passent par un moment qui aurait pu devenir tout à fait tragique, par ce mystère aussi qui est au fond du rapport entre Béatrice et Bénédicte, qui après tout, au début de la pièce, parle de façon très amère l'un de l'autre.
Pourquoi Shakespeare, d'après vous, a situé cette pièce en Italie et pas en Angleterre?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il est très rare de trouver une pièce de Shakespeare située en Angleterre, en dehors des pièces historiques qui étaient nécessairement situées là-bas. Deuxièmement, je pense que l'étranger pour Shakespeare était surtout un monde imaginaire. L'Illyrie, par exemple, dans La Nuit des Rois. Où est-ce qu'il faut situer l'Illyrie, ou nord-est de l'Italie, en Croatie? Ça n'a aucune importance. C'est un pays d'imagination. La Bohème a une côte dans Winterthur, le conte d'hiver.
La forêt des Ardennes aussi.
La forêt des Ardennes qui bouge dans la littérature de l'époque, entre Bordeaux et Lyon.
Donc c'est un pays d'imagination.
Mais en même temps, l'histoire de Héro et Claudio vient de l'Italie, vient en partie d'Aristote, mais surtout d'un certain Matteo Bandello, qui a écrit une série de novelles.
Et que Shakespeare a connu.
Qu'il a probablement connu. Et il y avait aussi l'influence de Castiglione. Et je pense que cette idée même de la dispute très élégante, pleine de jeux de mots, de traits d'esprit, etc., entre deux jeunes personnes, était teintée d'italianisme pour les Anglais.
Est-ce que je me trompe si, parce que nous racontons depuis tout à l'heure, Michael Edwards, que Béatrice et Bénédicte se disputent en permanence, avant de s'aimer à la fin. Est-ce que je me trompe si je dis que Béatrice, à mon sens, a peur d'aimer Bénédicte, alors que Bénédicte a peur d'aimer l'amour? Il a une peur plus générale de l'amour. Au début, d'ailleurs, il fait des déclarations très misogynes.
Je ne sais pas. Il est certain que Bénédicte se voit comme le héros du célibat, ce qui fait précisément la possibilité d'une chute comique. Il y a une chute tragique évitée dans Héro et Claudio, et une chute comique qui n'est pas évitée et qui est extrêmement amusante chez Bénédicte. Béatrice, puisqu'elle a ce souvenir d'un moment de rapprochement, peut-être d'intimité avec Bénédicte, pense surtout, peut-être que vous avez raison, que ce n'est pas avec lui qu'elle aimerait se marier. Mais néanmoins, il y a des passages où elle parle du mariage un peu comme Bénédicte. Des passages très très intéressants d'ailleurs. Lorsqu'elle dit par exemple que elle n'épousera jamais un homme avant que Dieu ne fasse des hommes avec autre chose que les limons de la terre. Très intéressant, parce que d'abord c'est une allusion évidente à la Genèse, mais elle continue en disant quelle indignité pour une femme d'être écrasée sous le poids d'une poussière. Elle dit pas obscène, quelque chose comme ça, misérable, d'une poussière, parce que l'homme est fait de la poussière de la terre. Et ensuite, et d'être obligé de rendre compte de sa vie à une motte d'argile rebelle. Ce qui est très précis. J'ai regardé la traduction de François-Victor Hugo, parce que nous parlons en français, donc, hein, et j'ai vu que Hugo traduit mal.
Ah oui.
Il dit une marne. On ne m'appelle pas l'adjectif exactement, mais disons misérable. Alors que rebelle est très précis. C'est Adam et Ève qui se sont rebellés contre Dieu. Et il y a d'autres allusions à cette chute. Bénédicte, de son côté, dit qu'il n'épouserait jamais Béatrice. Peut-être lui aussi a peur surtout de Béatrice. Même si elle avait en dot tout l'héritage d'Adam avant la faute. Et c'est intéressant comme allusion, parce qu'il aurait pu très bien dire ce qu'un autre dramaturge de l'époque lui aurait fait dire, si elle avait en dot toutes les joies du paradis. Ça, ce serait la chose conventionnelle à dire. Mais parler d'Adam avant la faute, de la perfection et du bonheur sans limite d'Adam avant la faute, et parler de la faute, même dans une pièce comme celle-là, c'est très important, parce que c'est une autre façon pour Shakespeare de dire bon, voilà, ce qui compte, c'est l'énergie, la fécondité langagière, c'est la gaieté intrinsèque qui est vraiment au cœur de Béatrice et Bénédicte. Mais en même temps, s'il n'y avait que cela, ce serait un peu superficiel, parce que on pourrait très bien répondre, mais mon cher ami, il y a beaucoup de misère dans le monde. Que dites-vous du malheur de vivre? Et alors, il en parle.
Il y a une réplique de Bénédicte qui est tout de même très étonnante, surtout relativement à ce que vous dites de leur supposée histoire antérieure dont on ne sait rien, et qui pourrait laisser penser que Béatrice a fantasmé une chose d'adolescente, parce que c'est au moment où il entend dire, par oui dire, quelqu'un dire « Savais-tu que Béatrice est follement amoureuse de Bénédicte ?» Il est surpris. Et d'ailleurs, pour ne pas tout à fait se dédire, il finit par proclamer une phrase assez jolie avec un bel adverbe « Je serai horriblement amoureux d'elle. » Donc, il y a quand même un élément de surprise qui veut dire qu'elle a peut-être fantasmé quelque chose, non ? Pourquoi serait-il sincèrement surpris ?
Ah ben, je pense qu'il est surpris parce qu'il ne comprend pas que toute cette violence qu'il dirige contre Béatrice, toute cette fantaisie verbale absolument intarissable, qui lui permet constamment de l'injurier, que tout cela vient du fait qu'il l'aime. En un sens, il ne comprend pas qu'il l'aime.
Nous allons maintenant entendre un extrait du film « Beaucoup de bruit pour rien » réalisé en 1993 par Kenneth Branagh. Il y joue le rôle de Bénédicte et c'est Emma Thompson qui interprète celui de Béatrice.
My lord,
I think this is your daughter.
Her mother has many times told me so.
Were you in doubt, sir, that you asked her?
Signor Benedict, no.
If Signor Leonardo be her father, she would not have his head on her shoulders for all Messina, as like him as she is.
I wonder that you will still be talking, Signor Benedict. Nobody marks you.
What, my dear Lady Disdain? Are you yet living?
Is it possible Disdain should die while she hath such meat food to feed it as Signor Benedict? Courtesy itself must convert to disdain if you come in her presence.
Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of all ladies, only you excepted, and I would I could find in my heart that I had not a hard heart, for truly I love none.
A dear happiness to women. They would else have been troubled with a pernicious suitor. I thank God and my cold blood I am of your humour for that. I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me.
God keep your ladyship still in that mind, so some gentleman or other shall scape a predestinate scratched face.
Scratching could not make it worse, and for such a face as yours were.
Well, you are a rare parrot, teacher.
A bird of my tongue is better than a beast of yours.
I would my horse had the speed of your tongue. But keep your way, in God's name, I have done.
You always end with a jade's trick. I know you of old.
Michael Edwards, Beaucoup de bruit pour rien est une comédie, mais s'il y a bien une chose qu'on voit dans Shakespeare assez souvent, et là en particulier, c'est que la différence entre la comédie et la tragédie est vraiment dans le ton. Je pense au bref passage du troisième acte où Béatrice tout d'un coup est prise d'un froid glacial. Et c'est une chose que Lady Macbeth pourrait très bien ressentir. Et c'est simplement la tonalité que Shakespeare décide d'imprimer à sa pièce, parce que vous l'avez dit, l'aventure de Héro et Claudio pourrait très mal tourner et d'ailleurs est tragique pendant très longtemps.
Oui, je ne dirais pas que les choses exactement comme cela. Je dirais que dans les comédies, ils s'intéressent en premier lieu à une certaine gaieté, une certaine allégresse. D'ailleurs, le mot « mirth » et le mot « merry » reviennent constamment. Constamment. Il sait bien que s'il écrivait une comédie simplement basée sur l'allégresse des personnages, non seulement il manquerait cette autre dimension de la vie qui est, après tout, le malheur, le contraire de la gaieté, mais que cette gaieté ne serait pas approfondie. C'est un peu ce qu'on peut reprocher, si on peut reprocher quelque chose à Berlioz, quand on n'est que moi, à Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Il a gardé l'histoire des héros et Claudio, mais ce sont des amoureux dont on annonce qui vont se marier et qui, ma foi, se marient. Alors que dans Béatrice et Bénédicte, le passage par le presque tragique l'aurait pu être tragique, et surtout ce moment où, autour du tombeau, il y a une vraie cérémonie, une poésie écrite sur des vers courts qui sautent aux oreilles, pour ainsi dire, comme étant tout à fait différent de la prose que l'on parle autour, la solennité du moment. En passant par tout cela, quand on arrive à la fin, on se rend compte qu'on n'est plus dans une sorte de liesse. On est dans une vraie joie qui est beaucoup plus profonde.
D'ailleurs, Don Pedro, au début de la pièce, dit à Béatrice, vous êtes née dans une heure de joie.
Exactement.
C'est le mot qu'il emploie.
Oui, oui, exactement. Et elle dit, encore une allusion vraiment intéressante, elle dit, oui, une étoile dansait. Et je suis né sous cette étoile. On ne peut rien affirmer, mais à l'époque, on pensait que le jour de la résurrection, le soleil dansait. Il y avait une étoile, un astre qui dansait. Et c'est peut-être ça que Shakespeare met derrière le texte, qu'il y a une joie beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que la simple...
Alors, Michael Edwards, quelle est, d'après vous, la différence qu'on peut établir entre Béatrice et le personnage de Katharina dans La Mégère apprivoisée? Qui est-elle entêtée, endiablée, qui a un peu des traits de caractère de Béatrice?
Oui, je pense que Shakespeare, ayant écrit La Mégère apprivoisée, n'a pas voulu répéter Katharina et qu'il donne à Béatrice d'abord beaucoup plus de gaieté.
Oui, elle est ta mère, Katharina.
Oui, c'est une vraie mégère. Et on se demande au début pourquoi Petruchio fait tout cet effort pour l'amadouer. Je pense que Béatrice est tout à fait différente, au fond. Ce n'est pas une mégère. Et comme Béatrice, elle a cet autre côté qui est un souci réel des autres. Bénédicte, par exemple, quand il voit, après l'accusation contre Héro, que Claudio est vraiment abattu, c'est son meilleur ami, après tout, il parle de son ami de façon très émouvante. Et comme toujours chez Shakespeare, parce qu'il ressent des émotions profondes, Il parle avec des images. Il dit « pauvre oiseau blessé », il rampe vers les roseaux pour se cacher. Et on sent une vraie charité, finalement. Béatrice aussi, à propos de Héro. Elle est indignée par le fait qu'elle a été accusée. Elle sait qu'elle est innocente parce qu'elle la connaît. Elle la sait incapable de tromper Héro. D'où ce moment absolument merveilleux, où, pour la première fois, Béatrice et Bénédicte se rencontrent, sachant qu'il est tout à fait possible que l'autre l'aime. C'est merveilleux, la façon dont Shakespeare ajuste la pièce. Jusque-là, il se dispute. Là, il se trouve l'un en face de l'autre. Et petit à petit, Bénédicte arrive à dire « C'est étrange !» comme je vous aime. Et Béatrice aussi. Et ensuite, il y a ce moment tout à fait théâtral, mais plus que théâtral, où Béatrice lui dit « Si vous m'aimez, tuez Claudio ». Et là, c'est le moment vraiment où la tragédie aurait pu intervenir. Tuer Claudio. Et en un sens, la tragédie intervient, parce qu'il y a ce genre de situation dans le monde. Bénédicte ne sera pas obligé de tuer Claudio, parce qu'on va, la situation va se résoudre. Il va comprendre que, tout le monde va comprendre que Héro était innocente. Mais c'est le moment où la tragédie intervient et où la comédie devient particulièrement comique. Parce que Bénédicte essaie de l'interrompre. Il dit « Jamais de la vie !» C'est la première réaction. Il ne réagit pas. « Jamais de la vie !» Béatrice continue de lui parler et il essaie de l'interrompre. Il dit « Béatrice !» Béatrice. Et la dernière fois, il dit « Béatrice !» C'est tout à fait la farce. Hein. C'est une scène de farce sur fond de tragédie.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ces deux personnages, on parlait à l'instant de la mégère apprivoisée, qui, je sais bien qu'il est un peu aberrant d'employer des termes modernes sur des choses anciennes, qui est un peu sexiste dans la mesure où cette brave fille est toujours ématée par les hommes qui lui plaisent, alors que c'est pas du tout le cas de Béatrice qui est plus indépendante. Et je me demande s'il n'y a pas cette comédie de la misogynie aussi, puisque Bénédicte fait profession au début de misogynie. Il persifle la passion de Héro et de Claudio, il dit qu'il refuse toutes les femmes, mais à la fin, il finit par dire au deuxième acte qu'il veut une femme intelligente ou qu'il n'en prendra jamais aucune, ce qui est le contraire de la misogynie. Donc est-ce qu'il n'y a pas, tout le long de la pièce, un jeu sur ça, sur le comportement des hommes vis-à-vis des femmes?
Ben, tout à fait, oui, bien sûr. Mais la misogynie est là, de façon comique. Il y a cette misogynie qui est enrobée dans la comédie, à tel point que la misogynie est présente, mais exorcisée.
Mais moquée, de toute façon. Moquée,
oui,
n'est-ce pas?
Oui. tout à fait.
Michael Edwards, pour finir, que vous ont appris les personnages de Béatrice et de Bénédicte?
Ah, mais ils m'ont appris tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'importance de la gaieté, du bonheur, et l'importance de ce qui entoure le bonheur, et l'importance dans une œuvre littéraire de, non pas de juxtaposer, mais de mettre ensemble des choses tout à fait contradictoires, pour que, à la fin, la pièce trouve une évolution, une forme, la gaieté, une sorte de chute au milieu vers la tragédie, et à la fin, une joie beaucoup plus mûre et beaucoup plus profonde, permanente que la gaieté. J'ai appris aussi, en lisant cette pièce en particulier, l'importance du dialogue, tout simplement. Évidemment, dans le théâtre, il y a du dialogue, sinon, sauf dans Beckett, il n'y a pas de théâtre. Mais ce dialogue, ce dialogue de la Renaissance, Marguerite de Navarre aussi, et bien avant, avec le Décaméron de Bocas, ces dialogues en Angleterre, chez Lilly et d'autres, mais magnifiquement dans Shakespeare, tout ce dialogue qui ajoute à l'allégresse, à la gaieté, qui met en valeur une langue, la langue maternelle, non pas une langue savante, mais la langue vernaculaire, au moment où on avait précisément besoin de cela, en Italie, qui s'est réveillée un peu avant la France et l'Angleterre, et ensuite en France et en Angleterre. Et aussi ce dialogue qui permet de parler de choses très sérieuses, mais dans une perspective autre, qui n'est pas grave. J'ai compris en lisant Shakespeare qu'on peut parler de choses tout à fait sérieuses, sur lesquelles on aurait peut-être envie de faire un essai, d'écrire un livre, hein, en prose. On peut en parler différemment, sur un autre ton ou une autre série de tons, et aussi en mettant toutes ces questions-là dans le vécu. C'est ce que Diderot fait dans Le Nouveau Drameau. Et je pense avoir appris un peu de tout cela dans mes dialogues singuliers sur la langue française, où je n'ai pas voulu justement écrire un essai sur les différences entre l'anglais et le français, mais montrer à quel point c'est toutes ces questions de langue, de ce que la langue fait de la personne qui la parle, etc. Toutes ces questions-là peuvent passer par le vécu, et d'ailleurs doivent passer par l'expérience d'un individu.
C'était Personnage en personne, le 22e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du Chaboté, recréé par Ludwig Tieck dans Le Chaboté.
Comme si j'étais assis là-haut. Paradis.
Réalisation Delphine Lemaire et Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Abgral. Prise de son Manuel Couturier.
De ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent.